Bonjour et bienvenue sur le Linéaire Info de Radio Panique, où nous accueillons aujourd'hui les membres de la rédaction du gym. Christine, Gérard, Chris et Aude. Voilà. Et avec eux, nous allons discuter des divers articles, en particulier concernant l'école et le vote. Alors, les articles sur l'école vont parler notamment de l'incursion des entreprises dans les écoles à travers divers stratagèmes. Et nous avons un article aussi sur les écoles spécialisées, je crois, intitulé « Martine va à l'école ». Et donc là, je vais laisser la parole aux membres du gym pour parler un peu de l'école.
Eh ben voilà, donc moi en fait je suis Gérard Crane, j'ai écrit un article intitulé l'école entreprise d'assaut, en fait pour l'école prise d'assaut, qui décrit un petit peu la manière dont on fait passer dans l'enseignement primaire et secondaire les valeurs de l'entreprise, mais comment les entreprises poussent aussi pour adapter les programmes des cours à leurs besoins, en fait, tout simplement. Donc il y a différentes associations, des ASBL qui sont notamment subsidiés par les pouvoirs publics. C'est par exemple la Free Foundation qui est subsidiée par la région Wallonne, qui a la bénédiction de Jean-Claude Marcourt. La bénédiction est un beau mot, on entend les cloches sonner pour l'instant. Voilà. Et il y a également l'ASBL, les jeunes entreprises, etc. Et toutes ces organisations ont un but, en fait, c'est de développer l'esprit d'entreprise au sein de l'école, et ce, dès l'âge de 7-8 ans, en fait, hein, pour les élèves de primaire. Et de comment ça se passe en pratique ? Ce sont des projets qui sont soumis aux professeurs, des projets de visite d'entreprise, de description de métier d'entreprise ou de création même d'une mini-entreprise, par exemple, au sein de l'école pour vendre des parapluies, des porte-clés, etc. Il y a même une dimension charity business où les bénéfices éventuels vont à une œuvre de bienfaisance. Et donc tout ça donne une image, en fait, de l'entreprise très gentille, en fait. Hein, on ne sait pas ce que c'est qu'une... Oui, c'est ça, très positive. Donc quand il y a des visites, par exemple, des commerces du quartier ou des métiers faits par les gens du quartier, on va voir le policier, le pharmacien, le vétérinaire, le boulanger, par exemple. Mais on ne va pas voir le pizzaiolo précaire, on ne va pas voir le mec de Bruxelles Propreté qui est sous-payé. On ne va pas voir les travailleurs des night shops, etc. quoi. Donc on donne véritablement une idée, un peu une sorte de mythe de l'entreprise. Et bien entendu, on parle encore moins de la grande finance, des banques par exemple, ou de la sous-traitance, des entreprises de sous-traitance, etc. Et voilà, ces ASBL réussissent en fait à donner vraiment une nouvelle image de l'entreprise, à dire que l'esprit d'entreprendre, c'est bien, vive la concurrence, en fait, tout marche bien. Et à côté de ça, depuis plusieurs années, hein, plusieurs dizaines d'années même, les fédérations patronales, donc les organisations où sont représentés les employeurs en Belgique, comme la Fédération des entreprises de Belgique, la FEB, ou SNCA, qui s'occupe des patrons de la chimie. Donc ces organisations patronales essayent, elles, de modifier les programmes des cours en fonction de leurs besoins de main-d'œuvre. Et ça marche très bien. Donc, il y a en Belgique un enseignement général qui a des missions normalement d'émancipation, d'éducation de base, etc. Et à côté de ça, il y a un enseignement professionnel et un enseignement en alternance, dont les missions sont les mêmes que l'enseignement général. Mais en plus de ça, ils doivent former à un métier. Et ce sont les employeurs, entre autres, qui définissent quels vont être les métiers pour lesquels les élèves vont être formés, en fait, quoi. Et on peut vraiment se poser la question, et c'est la question que je pose un peu dans l'article, j'y réponds même, est-ce que c'est le but de l'enseignement que de fournir de la main-d'œuvre très facilement comme ça aux employeurs, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas d'émission d'émancipation, d'éducation, de critique, de ce qu'on appelle les apprentissages de base aussi, hein. Donc, faut pouvoir savoir lire, écrire, calculer, comme le dit si bien l'ancienne ministre de l'enseignement, Maria Arena. Bon, en même temps, il faut savoir comprendre ce qu'on lit, il faut savoir pourquoi on calcule, et il faut savoir écrire pertinemment. Voilà.
Ah, On a un petit problème technique.
Oui.
Parce que, voilà,
oui,
ça marche.
Je crois qu'il y a un casque qui est trop près.
Larson.
Oui, il y a Larson. C'est pas...
Cool.
Oui.
C'est Eud, il s'amuse apparemment.
Il fait chaud avec le casque.
Donc oui, on entend bien qu'il y a visiblement un problème et on sent que l'esprit d'entreprise, en tout cas, dans ce cas-là, est assez négatif puisque c'est axé vers plus de gains. Mais il y a aussi un problème avec le gouvernement qui a quand même échoué, en tout cas en Belgique francophone, à avoir un enseignement cohérent et qui donc a laissé une grande place à ce genre d'initiative privée. Parce que les entreprises, au départ, préfèrent ne pas trop avoir à... Comment dire,
préfèrent sous-traiter...
À dépenser de l'argent pour former des gens, et donc sont plutôt contents que les gens, quand ils sortent de l'école, aient un nombre de compétences. Mais il s'est avéré que beaucoup d'enfants et d'adolescents, parfois même d'adultes, qui sortaient d'enseignement, n'avaient pas les compétences nécessaires pour rentrer dans le milieu du travail, mais aussi n'avaient pas de connaissances suffisantes pour se défendre au sein d'une société comme la nôtre, qui exige quand même des connaissances non seulement mathématiques, orthographiques, qui permettent de communiquer et qui permettent de réagir par rapport à certaines mesures. Mm-hmm. Et donc, il est peut-être temps qu'on pense un peu à la façon dont on va devoir restructurer l'enseignement.
Oui, très clairement, mais il n'y a pas de... ici, c'est véritablement le pactole pour les entreprises. En fait, c'est très lié à la situation sur ce qu'on appelle le marché de l'emploi, en fait. Dans les années 60, par exemple, où on était très proche du plein emploi, les entreprises n'hésitaient pas à investir de l'argent pour former leurs travailleurs. Elles avaient besoin de travailleurs, qu'ils soient qualifiés ou non. Ils n'étaient pas qualifiés, on les formait, on finançait la formation. Maintenant, ça s'est inversé, en fait. Les gens ont tellement besoin d'un boulot, les pouvoirs publics essayent jusqu'à présent très vainement de lutter contre le chômage. Et donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens sont prêts à faire un peu n'importe quoi pour trouver un boulot dans une entreprise. Les pouvoirs publics sont prêts aussi à donner beaucoup d'argent aux entreprises elles-mêmes pour qu'elles assurent la formation, donc ce ne sont plus les entreprises qui le font, et elles sont prêtes également à modifier les fondamentaux de l'enseignement. C'est vraiment ça aussi, c'est une des questions importantes de cet article qu'on peut retrouver sur www.legym.info, petite pub en passant. Donc c'est quelles sont finalement les missions de l'enseignement, parce que à la limite une entreprise peut se satisfaire d'un travailleur analphabète tant qu'il est s'il est hyper spécialisé sur une machine, par exemple, il n'y a aucun problème à ça, et donc ça convient à l'entreprise mais ça ne convient pas à la société.
Oui, non, ça c'est sûr, les entreprises aiment bien ne pas avoir à payer, ils adorent les stagiaires, enfin tous les gens qu'on va pouvoir faire travailler sans avoir à les payer.
Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, si on prend un petit peu de recul, bon, c'était une idée, j'ai l'impression, qui traversait plusieurs articles consacrés à l'enseignement dans le gym. Bon, il y a d'autre part le fait aussi que une école, bien sûr, est là pour transmettre des compétences, des savoirs, etc. Mais l'on sait également que l'école est un outil de reproduction de la société. Donc, au travers des programmes qu'elle propose, notamment ici, ce que Gérard vient de décrire, on voit également le projet de société qui est soutenu et qui est, on va dire, encouragé, bien sûr. Et nos sociétés sont totalement acquises à la logique de marché, au capitalisme. Donc il n'est absolument pas étonnant, vu avec un petit peu de recul, que l'école reproduise évidemment ce discours pour former dès la maternelle les enfants à accepter ce système, à y travailler bien gentiment et en obéissant, bien sûr.
Oui, mais en l'absence de politique compétente, de politiciens compétents, parce que si je me souviens bien, une certaine Laurette Anquelin, ça avait été aussi ministre de l'enseignement, et ça avait été un désastre sans nom, et sans surprise d'ailleurs. Et donc, tant qu'il n'y a pas des gens qui, à haut niveau, sont capables de dire, eh bien, voilà, ce qu'on peut faire, voilà, ce qu'on ne peut pas faire, et s'attache à certains garde-fous, parce que quand on voit maintenant dans les écoles, les enfants s'amènent avec des GSM, avec
mais au-delà de ça, il faut oser sortir d'une certaine logique. Et ça, Madame Hunkenings ne sortait absolument pas de cette logique qui est il faut réduire les budgets, il faut équilibrer les budgets, il ne faut pas investir dans les services publics. Donc c'est un choix politique avant tout.
Et là,
on n'est pas du tout dedans. Même chez les partis, on va dire, entre guillemets, de gauche.
Donc, je pense qu'en fait, il y a quelque part l'article, enfin les deux articles de Gérard s'attaquent un petit peu au mythe de la neutralité de l'école, mmh. dans le sens où le fait d'intégrer l'économie de marché est une forme d'idéologie aussi. Alors, on a eu récemment, il y a eu des grands débats sur la neutralité à l'école, mais l'aspect justement de la centralité en fait de la transmission de l'économie de marché comme modèle acceptable pour les individus n'est pas absolument jamais remis en cause par exemple. Donc je pense que il y a vraiment, parce que c'est quelque chose qui est intégré entièrement effectivement dans notre société, et donc la reproduction sociale fonctionne là-dessus aussi, mmh. puisque les élèves sont jamais, les enfants ne sont jamais soumis à une possibilité, d'autres possibilités que celles qu'ils ont à travers l'école, mais aussi à travers l'ensemble de la société.
Et ça se passe comme ça dans la formation des enseignants aussi d'ailleurs.
Hein, oui, oui.
À travers leur formation, il y a très peu finalement de critiques, oui. de réflexions, etc.
Oui, et ça empire au fur et à mesure, notamment dans les hautes écoles.
Tout à fait.
Où, effectivement, c'est encore assez minoritaire mmh. dans les écoles primaires, et ça va dépendre de la location de l'école. Mais quand on arrive dans les hautes écoles, quand on arrive dans des domaines comme le commerce et ce genre de choses, alors là, ce sont des gens qui proviennent de certains milieux. Mmh. On leur apprend réellement un besoin, et puis on leur apprend à avoir les moyens pour satisfaire ce besoin, de telle sorte à ce qu'une fois qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils aient besoin de certains revenus et dès lors doivent exercer certains types de fonctions.
Ouais.
Par rapport à ce que tu viens de dire justement sur le fait qu'il y a certains types de personnes qui arrivent dans les autres écoles, etc. On avait un article aussi dans ce numéro sur l'enseignement de Renomas sur l'accès à l'enseignement aussi, où il montrait bien en fait que malgré les différentes approches qui avaient été développées, en fait les questions étaient limitées et donc les réponses qu'on donnait à la problématique en fait de la démocratisation de l'enseignement supérieur étaient limitées aussi. Donc ça rejoint un petit peu, donc on avait vraiment effectivement l'ensemble des réseaux de niveaux d'enseignement qui étaient abordés dans le numéro. Mais je pense que on parlait aussi de la question des pouvoirs politiques, etc. Et souvent, ce qu'on observe, c'est très logiquement, puisque effectivement on est dans cette dogmatique de l'économie de marché, c'est que les politiques vis-à-vis de l'enseignement ne se font qu'après les décisions budgétaires. C'est-à-dire qu'on fixe d'abord une enveloppe de ce qui est possible, et après on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour l'enseignement ? Et c'est un vieux débat, hein. c'est quelque chose dont je me souviens étant étudiant aussi, qui était déjà à l'ordre du jour à l'époque. Donc je pense que ça correspond effectivement bien à cette domination de l'économie sur le reste de la société.
Ouais. Oui, c'est domination en l'absence d'autres choix.
Voilà.
C'est vrai que tant qu'il n'y a pas de travail d'anticipation, notamment de la part des politiciens, pas de budget prévu, donc rien n'est anticipé en fait. C'est vraiment se dire, ah ben tiens, cette année on a autant, on va faire autant. Rien n'est mis dans le temps, rien n'est mis en perspective. Ouais. Et donc ce manque d'organisation opposé à une organisation libérale ou à des compagnies ou à des groupes ne laisse aucune chance à la politique.
Oui, et vous avez même des doubles discours, quoi. Dans l'autre article dont je vais parler après sur l'enseignement spécialisé, bon, depuis 2004, la communauté française a mis en place des dispositions pour intégrer des enfants connaissant des spécificités particulières dans le réseau ordinaire. Mais à côté de ça, les budgets ne suivent pas. Au contraire, ils sont gelés pour l'année prochaine. Il n'y a rien qui est mis en place pour pérenniser ce type de projet. Donc finalement, on se demande à quoi sert d'annoncer un projet si derrière, de toute manière, on sait que les budgets ne sont pas là pour l'installer.
À récolter des votes.
Voilà.
Les restrictions budgétaires ont aussi pour autre effet de favoriser tout ce qui est le partenariat avec le privé. Puisqu'on dit, ah ben, puisqu'on n'a pas l'argent pour développer un projet, faisons appel au privé qui, bien gentiment, sans contrepartie bien sûr, viendra suppléer au manque budgétaire de pouvoirs organisateurs ou autres. Bon, pas encore tout à fait, je pense, le cas pour ce qui est d'enseignement, mais ça se voit dans d'autres types de projets. Et je pense que pour des constructions d'écoles, peut-être, déjà, il y a eu des partenariats, là, je ne sais pas.
Oui, c'est ce qu'on appelle les partenariats public-privé, ouais. Effectivement. Donc, ça, c'est un peu calmé provisoirement, mais c'était un projet surtout soutenu par le CDH et Écolo à l'époque, si je me souviens bien. Donc effectivement, le bâtiment n'appartient plus à l'école, au pouvoir public, ou bien leur appartiendra dans une après 50 ou 100 ans, par exemple, quelque chose comme ça. Mais c'est assez... oui, effectivement, il y a des choix budgétaires qui sont faits, et c'est ça qui est assez délirant quand même. Donc on se rend compte qu'il n'y a plus vraiment de grands projets pour l'enseignement. La base devrait être non pas, on a par exemple 100 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fait avec ça, on peut par exemple permettre l'alphabétisation de toute la population belge ou de toute la population de la communauté française. Ah non, finalement on n'a pas assez avec 100 millions d'euros, ce sera juste 80% de la population. Le principe devrait être: on veut que toute la population, que tous les habitants de Belgique et de communauté française puissent lire et écrire. C'est quand même la moindre des choses. C'est un objectif à réaliser, quoi qu'il en coûte, en fait. Mmh. Voilà, donc, et on mettra les moyens qu'il faut à disposition, etc. Mais la logique, comme l'a dit Chris, est effectivement totalement inversée.
Et donc, vous ne pensez pas que même bien encadrer des partenariats privés-publics?
Le problème, c'est qu'à partir du moment où on fait appel au privé, il est tout à fait logique aussi de suivre les règles du privé. Et les règles du privé sont-elles, en tout cas en ce qui concerne l'enseignement, les principes qu'on a envie de suivre si on veut mettre en place un enseignement qui conduise des enfants à devenir les citoyens d'une société égalitaire, juste, solidaire? Moi, j'y crois pas.
Quel serait l'intérêt du privé, en fait, à investir dans l'enseignement, en fait? Tant qu'il y a
à part former de futurs consommateurs,
pour former vraiment spécifiquement un métier particulier, moi je ne vois pas.
Oui, c'est ça. S'ils investissent, ils vont vouloir en trouver un retour sur investissement, comme on dit. Hein. Donc c'est pas des philanthropes. Donc s'ils participent à ce genre de projet, c'est parce qu'ils en espèrent un retour. Bon, d'une part peut-être économique sur les locations de bâtiments et des choses dans le genre, mais il y a un retour idéologique, et l'article de Gérard montre bien déjà que même en l'absence de ces partenariats, il y a déjà une pression patronale qui existe sur le contenu des programmes. Et on voit dans certaines universités en France, je pense, en Belgique, je ne suis pas certain que ce soit déjà le cas, mais en France, où on a des créations de chaires universitaires qui sont intitulées du nom d'une entreprise. Donc on a la chaire L'Oréal, pour donner un exemple.
Mais il y a un exemple belge, en fait, la chaire RTL TVI des médias.
Voilà.
Voilà.
Ah oui.
Donc, c'est...
C'est merde.
C'est difficile d'imaginer que les programmes ou les enseignements qui sont fournis à travers ce genre d'études sont vraiment neutres, ou en tout cas éloignés vraiment des préoccupations de celui qui finance. C'est une vérité... historique, que celui qui paye décide. Hein, donc,
Oui, c'est sûr, mais parce qu'au vu du contexte économique actuel, la situation ne va pas s'améliorer. Donc, il est pratiquement sûr que le gouvernement va mettre de moins en moins d'argent. Et de nombreux domaines exigent des équipements pour former les gens, et notamment pour les former sur des outillages particuliers, sur des technologies particulières.
Oui, mais les moyens sont là. Il faut juste les distribuer d'une certaine façon. On voit bien que les moyens ont été débloqués avec une facilité hallucinante quand il a fallu aider les banques, par exemple. Donc les moyens sont là. Donc le discours « il faut bien », « on est obligé de », « on ne peut pas faire autrement », il y a toujours l'idée d'une progression naturelle qui s'instaure, qui n'est absolument pas naturelle. Il faut aussi sortir de ça, je pense. Ouais. Et puis, au-delà de ça, c'est symboliquement aussi, si l'entreprise finance l'école, donc devient quelque part, on va dire, le patron de l'école, bon, ben, l'entreprise prend la place de l'État, prend la place de l'État dans la gestion de l'enseignement, tout comme elle a déjà pris, on va dire, la place dans
largement.
Le monde. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux que cette logique s'instaure et que la domination du monde de l'entreprise s'installe. Donc, évidemment, c'est pas grave si telle marque de fruits distribue ses poires dans une école maternelle. En soi, l'acte n'est pas grave, mais c'est vraiment la construction idéologique qui est derrière, qui là est vraiment préoccupante.
Ah oui. Une autre idée,
Oui, L'argent est là, il existe en fait, hein, comme Christine l'a dit, les ressources sont là, ça n'est pas, ce ne sont pas des choses qui techniquement sont difficiles à faire, trouver des ressources, c'est réellement une question de choix politique, de rupture politique, et celle-là, au sein du comité de rédaction, on est quand même assez sceptique quant à l'avènement de cette rupture dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent avec la génération politique que nous avons actuellement en fait, tout en simplement. Donc on peut prendre un exemple tout simple, hein, c'est l'impôt en fait. Donc ça fait plusieurs années maintenant que l'impôt perd son rôle redistributeur, c'est-à-dire que logiquement l'impôt ça sert à prélever un peu plus aux plus riches pour que les plus pauvres soient un peu moins dans la galère en fait, grâce à l'infrastructure publique, à la sécurité sociale, à l'assurance chômage, tout ce genre de choses. Et en fait en Belgique on a supprimé il y a quelques années la dernière tranche d'imposition des revenus. On en a beaucoup parlé en France en fait quand Sarkozy a pris la mesure qu'on appelle le bouclier fiscal. Donc c'est en fait une mesure qui ne coûte pas très cher au niveau de vie des riches, mais qui génère beaucoup moins de recettes bien entendu, puisque les riches au lieu de récupérer 300 000 euros des impôts vont par exemple en récupérer 400 000. Qui récupèrent 300 000 euros, 400 000 euros, qu'est-ce que ça change pour eux? Une vie confortable leur est assurée, on va dire. Par contre, ces 100 000 euros qui sont perdus peuvent servir à plein d'autres choses. Et donc, le bouclier fiscal en Belgique existe depuis plusieurs années et aucun des récents partis politiques au pouvoir ne discute de sa remise en question, par exemple. Donc il n'y a qu'à prendre des mesures simples, et pourtant il y a un mécanisme qui coince parce qu'il y a aussi une volonté de ne pas faire ce choix politique.
Ah oui, ils ne veulent pas, c'est vrai qu'on l'a vu, comme on en parlait tantôt avec les banques, où ils ont effectivement sauvé les banques, parce qu'effectivement on imagine bien que de nombreuses banques en faillite allaient entraîner un mécontentement de la population qui pourrait éventuellement être suffisant à les renverser, ou en tout cas mettre beaucoup de politiciens au chômage, alors que l'école, pour finir, ils sont contents, hein. C'est mieux d'avoir des moutons, un culte, qui vont voter pour ceux à qui on... ceux qu'on leur montre à la publicité, ouais. Ou ceux qui ont un beau sourire sur leurs idiotes affiches.
Mais dernier point peut-être justement sur...
Puis on fera une pause musicale.
Ouais. Mm-hmm. Pour l'école entreprise d'assaut, le dernier point aussi qui est important, c'est cette espèce d'idéologie de l'esprit d'entreprise où on dit que chacun a sa chance en fait. Si tu es un bon businessman dans ta mini-entreprise de l'école et que tu as un projet intéressant, alors tu es presque condamné à réussir si tu fais ça bien, si tu as du... Et donc ça c'est quelque chose de complètement faux pour l'instant en fait. Les gens sont inégaux devant la réussite, la réussite scolaire ou la réussite professionnelle aussi quoi, hein. Donc quand on est quand on vit dans un milieu très pauvre, quand les parents n'ont pas de bibliothèque chez eux par exemple, et ben on sait à peine ce que c'est un bouquin, on a beaucoup moins de chances de réussir. C'est aussi simple que ça. Et les entreprises et les professeurs aussi qui souscrivent à tous ces programmes de mini-entreprises, etc., disent exactement le contraire. Donc c'est une espèce de mensonge éhonté, quoi.
Ouais, oui, c'est un peu dommage.
On avait un article intéressant qui rejoint un peu ce sujet qu'on a publié en fait après le numéro sur l'enseignement. C'était sur un enseignant qui travaillait dans le 9-3 en France, donc une région un peu difficile, et qui expliquait son expérience pour enseigner Bourdieu, donc qui entre autres théorisait sur le capital culturel et ce genre de choses. Donc donc c'est pour rebondir sur ce que disait Gérard, mais bon, peut-être qu'on va faire
une pause musicale et on retrouve l'équipe du gym tout de suite après.
Bonjour. Alors voilà.
Peut-être un mot sur les choix musicaux.
Oui, Gérard va un petit peu nous commenter le choix musical.
Oui, ben en fait, on a tous été choqués, hein, c'est le mot qu'on utilise beaucoup pour ça, mais parce qu'il s'est passé récemment et une fois de plus en Palestine, en fait, avec l'attaque de la flottille humanitaire par l'armée israélienne. Aucune attaque au mépris du droit international, au mépris des brigades qui s'étaient déplacées jusque-là. Donc, cette espèce de nouvelle brigade internationale, mais pacifiste. On est d'autant plus choqué aussi par le manque de réaction ferme des gouvernements occidentaux, en fait, hein, qui font des grands tralala et quelques gesticulations. Dès qu'Israël fait des crasses pareilles, des actes de guerre et des tueries absolument, absolument inexcusables. Donc beaucoup de gesticulations, mais pas de sanctions, pas de, de soutien d'une campagne de boycott, par exemple, ou de sanctions économiques vis-à-vis d'Israël, qui est bien entendu un de nos grands partenaires économiques et financiers. Voilà. Et donc, toute la musique qu'on a choisie pour cette émission est en rapport avec la Palestine. Cette fois-ci, en fait, parce qu'on n'a pas d'article sur la question. Il y a bien des brèves sur le site hein, www.lejim.info. On en a parlé beaucoup. On se rend compte aussi que on a eu un petit succès parce qu'il a été très peu dit dans les médias que la Belgique s'était abstenue au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la motion condamnant Israël, par exemple, ce genre de choses. On a mis fort ça en avant et.
Juste une précision, c'était une demande d'une enquête internationale sur ce qui s'est passé, en fait. Et la Belgique s'est abstenue. Ça est sorti, en fait, l'information, je l'ai vue, a été reprise, mais beaucoup plus tard par rapport à nous.
Oui, voilà. C'est exactement ça, donc. Ben voilà, toute la musique aujourd'hui est soit en faveur de la Palestine, soit d'origine palestinienne. Hein. Le premier groupe qu'on a entendu en intro de l'émission, c'était Dame, un groupe de rap palestinien. Et le deuxième, c'était Zone d'éducation populaire avec Palestine. Et le troisième, ben, vous le découvrirez.
Voilà, donc je pense qu'on reprend un petit peu le cours de notre numéro spécial enseignement. Et pour ma part, j'ai écrit un article qui s'appelle « Martine veut à l'école spécialisée » et qui, comme son titre l'indique, parle de l'organisation en communauté française de Belgique d'un réseau d'enseignement spécialisé, qu'on appelle maintenant « adapté », et qui s'adresse à des enfants qui, pour des raisons différentes, parce qu'ils ont des troubles neurologiques, parce qu'ils ont un handicap moteur ou physique, etc., ne sont pas intégrés dans l'enseignement ordinaire. Donc, à partir de là, évidemment, il y a deux positions qui sont possibles. D'une part, il y a des gens qui trouvent ça... On tente de me distraire autour de moi, mais je garderai le cap quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Donc, il y a deux points de vue. Soit on considère que c'est une bonne chose parce qu'il y a une démarche qui consiste à s'adapter à des enfants qui ont vraiment des difficultés parfois très très sérieuses, en mettant en place par exemple des aides spécifiques, que ce soit de la kiné, de la logopédie, ou des soins vraiment plus adaptés à un trouble moteur, etc. On accueille dans une structure composée en 8 types, en fonction, bon je ne vais pas développer ça, mais en fonction des différents troubles qui existent. Et donc c'est bien mieux que dans la plupart des pays où l'on exclut purement et simplement ses enfants et où ils ne trouvent pas du tout de place dans une école. Bon, à côté de ça, il y a aussi certains problèmes qui sont inhérents au système. Et puis il y a également, je vais commencer par ça, une manière de voir les choses qui est la mienne et qui est moins positive, c'est-à-dire que quand on organise un enseignement spécialisé, ça signifie que quelque part on exclut, et ce dès la maternelle, les enfants qui sont différents. C'est-à-dire que les enfants qui sont différents n'ont pas la place avec leurs petits camarades dans une salle de classe ordinaire. Et bien sûr, on reprend ici un petit peu le fil du rôle de reproduction sociale de l'école. Lorsque l'école exclut dès la maternelle et même dès la crèche, parce que j'ai appris qu'il y a des enfants qui sont déjà refusés au moment de la crèche. Évidemment, c'est à l'image de l'exclusion que la société inflige aux gens qui sont les plus faibles, qui souffrent d'un handicap, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, le Jim avait publié un article sur les ateliers protégés. Plus tard, ces enfants-là vont se retrouver dans une société où c'est le monde de l'entreprise, et dans le monde de l'entreprise, il y a un lissage généralisé, il faut être compétitif. Bon, comment être compétitif lorsqu'on a un problème aigu de l'attention, par exemple, problème qui n'est pas considéré et qui n'est pas reconnu. Il faut être capable de manipuler des technologies modernes. Bon, comment manipuler une technologie moderne lorsque, par exemple, on souffre de dyspraxie, qui est un trouble de construction du mouvement, qui n'est pas très connu, mais il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Et dans le monde de l'entreprise, ils vont être exclus à cause de cela. Bon, il faut être flexible. Bon, ça signifie quoi? Ça signifie avoir des horaires délirants, etc. Quid des personnes, et il y en a beaucoup aussi, qui ont un besoin physiologique de 15 heures de sommeil par nuit, etc. Donc, toutes ces différences, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, ne sont pas acceptées dans l'école et ne sont pas acceptées dans la société aussi. Et en ce sens, pour moi, l'école porte une lourde responsabilité morale et politique. Même si, à côté de ça, et j'insiste aussi, il y a des gens absolument fantastiques dans l'enseignement spécialisé. J'en connais moi-même quelques-uns qui sont généreux, qui ont un projet, qui ont vraiment une vision très sympathique des choses. Mais en attendant, ces enfants-là sont exclus dès leur plus jeune âge et continueront à l'être. Voilà.
Mais oui. C'est vrai que dans le contexte actuel du travail à l'école et des professeurs, quand on voit leurs conditions de travail, ce serait parfois difficile pour eux de prendre en compte des gens ayant des besoins pédagogiques ou même physiques.
Et là, on revient à la discussion que l'on avait tout à l'heure. C'est bien sûr un choix politique. Il est évident que des enseignants qui se retrouvent face à des classes nombreuses, avec un programme qui est par ailleurs de plus en plus chargé, qui font un boulot difficile, parce que c'est clair, quand on a un enfant qui a un trouble du comportement dans sa classe, ou qui est hyperactif, ou qui est en chaise roulante, ou qui, la difficulté, évidemment, est de plus en plus grande. Ce sont des gens qui sont mal payés, qui sont mal considérés. Donc au bout d'un moment, eux-mêmes, pas tous, mais certains, finissent par avoir aussi un esprit très, très petit, en disant, cet enfant-là, je ne le veux pas dans ma classe, ça ne va pas, il ne suit pas, c'est pas possible de progresser ainsi. Bon. Et il y a énormément d'hypocrisie, je l'ai dit tout à l'heure, dans cette politique d'intégration des enfants dans l'ordinaire, parce que les moyens ne sont pas là, la formation des enseignants ne suit pas non plus. Bon, voilà. Et alors, à ce sujet-là, j'avais interviewé un neuropédiatre d'Erasme qui s'appelle Denis Verhulpen, qui lui parlait, bon, on pourra faire un petit bémol après, du système en Finlande, en fait. En tout cas, qui, jusqu'à 16 ans, accepte tous les enfants dans toutes les classes. Mais évidemment, c'est un tout autre projet. Ce sont des classes qui sont des classes de 11 ou de 12 maximum, je pense, où il y a un ou deux enseignants, où il y a des structures qui sont dans la classe, où il y a des ordinateurs pour les enfants qui sont, par exemple, dysorthographiques, etc. Et donc, tous les enfants vont ensemble à l'école, et c'est évidemment un autre projet de société. Maintenant... Voilà.
Oui, ça permet, parce que c'est vrai que l'école, dans une certaine mesure, est d'abord un apprentissage social, qui apprend à vivre avec les autres, qui est une première confrontation avec l'autre,
oui,
vivre avec son comportement, la tolérance également. Et c'est vrai que si dès l'école on apprend que le monde est lisse et qu'on ne peut pas supporter des gens ayant des comportements différents, des besoins différents ou réagissant différemment, ça n'augure rien de bon pour plus tard.
Ouais, oui. Exactement.
Pour plus tard.
Exactement. Voilà. Puis bon, comme c'était un médecin, il parlait aussi, on va dire, de problèmes plus spécifiques liés à ces enfants-là, comme par exemple ceux qui cumulent les troubles. Et là, ça devient carrément délirant, quoi, parce que comme l'enseignement est divisé en 8 types, mais que bien sûr, vous avez des centaines de troubles. Et il y a des enfants qui ne rentrent dans aucune catégorie. Et pour eux, ça devient vraiment terrible, pour leurs parents aussi, parce qu'ils sont renvoyés. Et c'est le même genre de ping-pong, on va dire, dans l'enseignement ordinaire, lorsqu'on les envoie en professionnel ou en technique. Il y a un ping-pong entre types qui s'effectue aussi, parce que c'est très difficile pour un établissement d'accepter de mettre sur pied un projet qui accueille un enfant qui présente vraiment une difficulté, on va dire, originale. Parce que aussi, il n'y a pas le soutien de l'État derrière, ne fût-ce que par le financement, que par les projets,
oui,
etc.
Oui, et la structure, parce qu'effectivement, tout ça est tellement compliqué que ça exige des structures souvent bien
Tout à fait.
Très important.
Et un exemple frappant, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui sont étrangers ou issus de l'immigration, qui sont envoyés comme ça dans l'enseignement spécialisé. Aussi, on va dire, par facilité. C'est un problème très complexe parce que, pour les enseignants, c'est pas facile non plus. Il faut bien se rendre compte de ça, que c'est pas du tout un métier facile d'être enseignant. Mais quand ils trouvent dans leur classe de 27, 28, voire 30 maintenant, des enfants qui viennent d'arriver en Belgique, qui ne parlent pas français à la maison, ne parlent pas français, etc. Ils ne donnent pas de temps ou ils n'ont pas le temps. On peut présenter ça comme on veut, mais en attendant, beaucoup de ces enfants sont envoyés vers un réseau spécialisé qui n'est absolument pas adapté à eux, bien sûr. Ce n'est pas du tout ça la réponse qu'il faut leur donner.
Ouais, déjà, pour des enfants qui n'ont pas de troubles donc reconnus cliniquement et autres, même souvent, les enfants ont des problèmes à l'école et donc échouent pour des raisons qui sont simplement parfois d'ordre parental ou il y a beaucoup de raisons, mais ces gens n'ont pas à la base des difficultés qui nécessitent soit des traitements coûteux, soit des procédures pour leur permettre d'accéder à un certain degré d'éducation. Et donc ça continue à démontrer que l'éducation, en tout cas dans la partie francophone belgique, est défaillante à tous les niveaux et ne permet vraiment qu'à ceux qui n'ont pas de problème et qui sont prêts à se formater dans une certaine mesure de réussir.
Exactement. Et pour rebondir là-dessus, on avait un autre article qui était une présentation d'un autre projet pédagogique qui était l'école Pédagogie Nomade à Gouville-Limerlé, enfin dans la région là, et qui justement en fait cherchait à présenter une forme d'école qui était un peu différente de celle de l'école traditionnelle et dont un des objectifs annoncés était de pouvoir récupérer par exemple un certain nombre d'élèves qui étaient en décrochage scolaire. Donc voilà, on avait un article aussi, je pense qu'il y a eu aussi une émission sur Panique sur cette école.
Oui, effectivement, je ne sais plus quand c'était, mais c'était dans le courant du mois passé où on a fait, c'était la thématique école.
Voilà.
Donc enfin, tout ça pour dire qu'il y a un problème aussi, c'est le côté où on veut vraiment enfermer, comme disait Christine, on veut parfois enfermer les enfants dans certaines catégories, dans certains types, et il y a un côté très rigide aussi dans l'école, dans l'organisation, je veux dire, de l'enseignement. Et il y a des enfants, que ce soit pour des raisons médicales ou pour diverses raisons, qui ne rentrent pas du tout dans ce genre de schéma. Et souvent, la réponse qu'ont les pouvoirs organisateurs par rapport à ça, c'est simplement de les exclure. Ce qui est un petit peu, évidemment, problématique dans un projet de société qui se voudrait ouvert et tel qu'on le proclame en général, sous nos latitudes.
Bien, on va faire une petite pause musicale,
histoire
de respirer, et on reprend tout de suite après avec l'équipe du gym. Vous êtes sur Radio Panique 105.4.
Donc on va peut-être parler un petit peu de notre journal, en fait, de ce que c'est gym, parce qu'on en a pas, on a beaucoup parlé des articles, mais on n'a pas beaucoup parlé en fait de qui nous sommes et ce qu'on fait. Alors, déjà rappeler, donc Gérard l'a déjà fait, mais on va encore le faire parce qu'on est là aussi pour faire un peu de publicité.
De propagande.
De propagande. Donc, notre site se trouve à www.legym.info. Et la première chose qui frappe quand on va sur le site, je pense, sont les logos, les trois petits singes. Comme on a notre graphiste, mais qui est très timide avec nous, peut-être nous expliquer un petit peu que représentent ces trois singes.
Oui, alors, ces trois singes sont basés... Merde, j'entends ma voix, c'est bizarre.
Timide et inconsciente.
On est parti des trois singes de la sagesse, donc qui ne voient pas, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas. Et on a fait le concept inverse, donc avec un singe qui a des lunettes, un singe qui gueule, un singe qui a des énormes oreilles. Donc ce qui représente un peu le gym, qui veut justement voir, le dire haut et fort et entendre un maximum de choses. Et donc voilà.
Voilà, et sinon, c'est un projet qui est né maintenant, en septembre, on aura un an. On est uniquement en ligne pour l'instant. Peut-être qu'un jour, il y aura un projet papier qui suivra. On verra bien un petit peu comment ça se passe. Il y a une charte que vous pouvez consulter en ligne qui explique un petit peu nos principes, pourquoi on a monté ce projet ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce site d'information, etc. Nous sommes déjà à notre 9e numéro. On aborde des thèmes assez différents. On a eu un numéro sur capitalisme et écologie, on a eu un numéro sur la violence légale. Aidez-moi, donc Big Brother, donc on essaye quand même de partir, on va dire, dans différentes directions, mais toujours avec à l'esprit cette volonté de présenter une information qui soit tout à fait libérée justement des dogmes d'un discours dominant qu'on ne trouve que trop partout et qui est absolument exaspérant et qui en plus empêche les gens, la population, de réfléchir tout simplement. Et donc de pouvoir éventuellement agir sur cette société.
Oui, voilà, donc peut-être aussi rappeler que JIM, c'est pour JIM, Journal Indépendant et Militant, en fait. Donc ça, c'est un peu les trois axes fondateurs de la charte, pour laquelle il y a aussi beaucoup de principes, l'anticapitalisme, la solidarité, l'écologie, l'émancipation, et l'ouverture aussi. Donc l'ouverture, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun peut nous proposer un article, une brève, en tout cas c'est un des aspects. On essaye d'être un peu ouvert à la discussion, au débat. Et donc le principe, c'est que le JIM est un journal accessible, on peut nous contacter facilement.
Il y a le site.
Il y a le site, www.lejim.info. On rappelle, et donc on peut nous contacter via le site, hein. Il y a un formulaire de contact, il n'y a pas trop de problèmes pour le trouver, il y a une lettre d'information aussi, etc. Quoi. Donc l'ouverture, c'est l'ouverture à la discussion, l'ouverture aux candidats écrivains, journalistes aussi.
Voilà,
quoi.
Le JIM fonctionne principalement par tous ces gens qui nous envoient des articles, il n'y a pas que nous qui sommes là pour fournir les articles. Quoi.
Ouais. Actuellement, ouais. Il y a presque 40 auteurs différents qui ont déjà collaboré au journal en moins d'un an. Quoi. Donc, quelquefois, on les a contactés nous-mêmes. Quelquefois, l'initiative, ils nous ont soumis des projets.
Rappelez aussi que c'est entièrement bénévole. Hein. Donc, on n'est pas financé par un organisme quelconque. Donc...
Tiens, il me semblait qu'on avait lancé un projet de mini-entreprise.
C'est pour la rentrée.
Mais donc c'est clair, ça constitue aussi clairement un appel par rapport aux personnes qui ont une bonne plume, qui ont un esprit un peu critique, qui se retrouvent dans notre charte. Évidemment, on est demandeurs d'auteurs. Alors si vous prenez de belles photos, si vous avez un bon coup de crayon, ce genre de choses, tout nous intéresse évidemment à partir du moment où ça s'insère dans notre projet et où ça apporte quelque chose d'intéressant à notre information.
D'ailleurs, on recherche aussi des contributions d'artistes pour illustrer nos articles. Ça pas spécialement figuratif, même si c'est un peu conceptuel, ça peut être vraiment très très chouette. Hein. Et donc évidemment, le nom de l'artiste figurait en dessous.
Ouais. Donc c'est vraiment un appel du pied. Si vous nous entendez, n'hésitez pas.
Aidez-nous.
Rappelez aussi, donc à côté de nos articles, on essaye aussi d'alimenter régulièrement des brèves, donc des articles un petit peu plus courts, de manière à réagir beaucoup plus sur l'actualité, où on essaye vraiment de revenir sur des sujets qui sont soit ignorés ou en tout cas pas traités vraiment de manière importante par les autres médias. Et donc s'il y en a certains qui veulent contribuer de cette manière-là aussi, s'ils ne se sentent pas de partir directement dans un long article, parce que nos articles sont quand même en général assez longs et argumentés, ce qui parfois peut faire peur, mais donc de prendre contact avec nous à partir d'un sujet ou d'une brève qu'ils voudraient développer.
Ou simplement nous transmettre une information aussi. C'est également ça, l'information alternative. C'est pas compter sur les grands médias et relayer ce qu'ils disent ou mettre en avant ce qu'ils disent. C'est aussi pouvoir révéler ce que eux ne disent pas parce qu'ils ne veulent pas le dire ou ne peuvent pas le dire. Donc des infos d'agenda alternatif, des rafles policières à Bruxelles par exemple, on n'en parle pas tous les jours, mais on peut quelquefois nous donner l'information. Il y a de nouveau un petit Larsen, on dirait. Voilà.
Et donc aussi, comme on a déjà eu le cas des gens qui participent à des activités, des manifestations, des rassemblements, de pouvoir en parler, c'est aussi ça. Nous, je veux dire, on est aussi militants, donc on se positionne par rapport aux actions qui se passent un peu partout en Belgique ou même à l'étranger. Hein, si, je ne sais pas jusqu'où va l'auditorat de Panique, mais le journal est quand même ouvert à des contributions aussi donc de l'étranger. On a eu un certain nombre d'articles qu'on a repris de France, Et on a aussi une contributrice qui nous écrit depuis le Brésil. Donc on est tout à fait ouvert à des contributions
internationales.
Et alors, quelle est la thématique du mois de juin ?
Alors, pour le mois de juin, c'est un numéro qui n'a pas de thématique particulière, mais malgré tout, on souhaite mettre l'accent sur quelque chose d'un peu particulier, ce sont les élections, évidemment. Hein, donc, y a un truc le 13 juin, voilà quoi. Il y en a certains qui vont à la piscine, d'autres pas.
C'est ça les affiches de mauvais goût qu'on voit un peu partout en ville.
Voilà, c'est ça. Donc,
ça s'appelle géant Facebook ou...
Et donc, il n'y a pas eu de débat au sein du comité de rédaction. Là-dessus, on a une charte qui est assez ouverte. Donc, chacun est libre de voter pour qui il veut ou de penser ce qu'il veut au niveau des élections. Mais néanmoins, il nous semblait intéressant de mettre en avant deux choses. Donc, c'est le phénomène de l'abstention, qu'elle soit volontaire ou pas. Donc, les gens qui ont choisi de ne pas voter, tout simplement, de décrire un petit peu le système électoral par ailleurs. Donc ça, il y a déjà un article qui est paru maintenant, qui est intitulé « Pour ne rien changer, voter ». Et enfin, il y en a un deuxième qui va être publié sous peu. Je ne connais pas la date exacte. Je pense que c'est le 8 juin. Ça doit être la semaine prochaine, de toute façon. Où là, en fait, seront interviewés des représentants de petits partis. Donc, en Belgique francophone, dans les petits partis de gauche, bien entendu. On ne s'est pas amusé à aller demander à Modric Amen ce qu'il pensait des élections et du système actuel. On est quand même anticapitaliste. Hein. Donc, on a été interviewé des gens du Parti du Travail de Belgique et d'autres membres du Front des Gauches, en fait, qui est une coalition de 6 partis différents, parmi lesquels il y a Vélorussion, le Parti humain, Comité pour une autre politique, le Parti socialiste de lutte, la Ligue communiste révolutionnaire, et est-ce qu'il en manque encore un ?
Le Parti communiste,
ah oui, tiens.
C'est le problème de ce genre de d'alliance, c'est qu'on risque toujours d'en oublier. Hein.
Voilà, tout à fait.
C'est comme les rois mages.
Et donc, on a été interviewés des gens qui votent, des gens qui ne votent pas, sur leurs idées, sur pourquoi ils votent, pourquoi ils ne votent pas. Et ça, c'est un peu l'esprit de l'article qui va sortir bientôt. Donc.
C'est juste une précision par rapport à ce que tu disais sur l'article qui est actuellement publié. C'est pas vraiment un article sur le vote ou l'abstention. C'est plus une analyse en fait de l'auteur sur le fonctionnement en fait du processus électoral tel qu'il fonctionne actuellement ici en
oui,
Belgique,
oui, tout à fait.
Ou même de manière générale en Occident. Et c'est plus, disons, un regard désabusé sur le fait que les élections vont pas vraiment amener à un changement, on va dire, radical de fond sur le système. Mm-hmm. Ce qui ne veut pas dire que l'abstention par rapport à ça soit une solution non plus, évidemment. Mm-hmm. Si tu t'abstiens et que tu ne fais rien, ça ne va pas changer non plus grand-chose. Donc la conclusion d'ailleurs était la lutte continue,
mmh.
Ce qui
change, hein.
La lutte continue, voilà, mmh. Qui est un slogan de mai 68 qui garde toute sa pertinence.
Mais au-delà de ça, l'auteur de l'article explique aussi que non seulement il est difficile d'espérer un changement, en tout cas quand on se positionne dans une logique anticapitaliste, un changement, on va dire, qui soit convenable et qui soit acceptable, mais en plus ça pérennise le système, évidemment, parce qu'on va voter, donc ça veut dire qu'on participe, donc ça veut dire que le système est légitimé, ça veut dire que toute autre forme de contestation qui n'est pas légale est criminalisée, et donc évidemment c'est également... un instrument de maintien de l'ordre.
Oui, oui, et à l'inverse, ne rien faire est également les valider, puisque...
Mais la question aussi est, est-ce que s'abstenir ou voter blanc ou voter nul, c'est ne rien faire ? Mais là, bon, c'était un débat, évidemment, qui mériterait une émission en soi.
Il y a un point aussi, je pense, on a beaucoup... Il y a beaucoup de gens qui sont pris au dépourvu par rapport aux élections du 13 juin, et... Je constate personnellement beaucoup de gens qui sont là et ils ne savent pas pourquoi voter ou s'ils doivent s'abstenir. Bref, finalement, ils ont perdu totalement le contact avec leur potentiel politique. Ils n'ont plus la capacité de réfléchir sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour redynamiser un petit peu la vie politique dans le pays. C'est peut-être un...
Ça ne passe pas par le vote ni l'abstention. Quoi.
Non, mais le système électoral fait qu'on a ce discours que tout peut changer, tout le seul endroit où tu peux t'exprimer est dans le vote. Et donc les gens, quand, actuellement, ils sont un peu désabusés parce qu'ils se rendent bien compte, effectivement, qu'on les mène en bateau avec ces élections, ils ne savent pas quoi faire, finalement. Et parce qu'on a perdu, effectivement, tout un contexte qui existait encore dans les années 70 ou 80, où il y avait des revendications sociales qui s'exprimaient à travers d'autres organisations que les partis, que ce soit les syndicats ou dans d'autres groupements.
De façon plus générale, alors, en fait.
De manière plus générale. Ouais. Et les gens sont maintenant, on sent qu'il y a vraiment une sorte de perte de repères. On sent bien qu'effectivement on va aller voter, on ne sait pas trop pour qui ou pourquoi, mais que d'un autre côté on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre finalement. Quelles seraient les alternatives? On n'a plus de vision des alternatives possibles au simple fait d'aller mettre un bulletin dans l'urne. Comme mode de revendication.
Mmh. Et ça revient aussi dans une des interviews. Une personne explique qu'elle ne croit absolument plus au système d'élection tel qu'il est organisé. Elle a tout à fait conscience de ses limites, mais il faut, c'est comme ça, elle le fait. Et il y a une espèce d'attitude, il y a vraiment une construction qui est là.
Est-ce qu'on n'est pas menacé d'amende si on ne va pas
voter? Oui, entre 50 et 200 euros, tout à fait. Mmh. Donc... Voilà.
Eh bien voilà, nous arrivons au terme de notre émission d'info sur Radio Panique, où aujourd'hui nous avons accueilli le GYM, c'est-à-dire le journal indépendant et militant. Alors ben, je tiens à remercier toute l'équipe du GYM de s'être déplacée, d'avoir gravi les échelons, parce qu'on est au dernier étage.
Tout à fait.
Donc, merci
pour l'invitation.
Merci beaucoup, à la fois prochaine. Et on va se quitter en musique avec Gaza Calling Checkpoint.
Oui, Checkpoint 303, hein, si je le dis en anglais, c'est une catastrophe. Donc, c'est également un groupe palestinien d'électro cette fois en fait.
Cool, voilà. Merci, bonne soirée. Ouais.